Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Tous les esprits sont tournés vers la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. En Pologne, on se prépare très concrètement à suivre l'événement. Nous aussi, nous nous préparons à cet événement. Vous proposons aujourd'hui de revenir sur les liens qui unissaient les jeunes à Jean-Paul II avec sœur Nathalie Becker, la directrice du Service national français pour l'évangélisation des jeunes. Autre événement cette année, la Coupe du monde de football au Brésil. Elle ne fait pas l'unanimité sur place, notamment parmi l'Église, qui s'inquiète entre autres de l'explosion de la traite des êtres humains. Elle met en garde contre le tourisme sexuel. République centrafricaine, les violences des anti-Balaka poussent les musulmans à fuir le pays. La ville de Bossangoa ne compte ainsi plus de musulmans depuis la fin de la semaine dernière. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est bientôt Pâques et le pape François, avant d'être pris par ses nombreux engagements à partir de jeudi matin, a décidé d'adresser ses vœux à ses collaborateurs dès maintenant. Ce mardi matin, après ses audiences privées, il s'est rendu ainsi dans tous les bureaux de la secrétaire d'État pour saluer personnellement tous les employés, leurs chefs, et leur souhaiter donc de joyeuses Pâques. À l'occasion de cette semaine sainte, le pape François va également offrir 1200 évangiles de poche aux détenus de la prison romaine de Regina Celli. C'est ce mercredi que l'aumônier du pape, Mgr Krajewski, les distribuera. Ces livres contiennent les quatre évangiles et les actes des apôtres. Ce sont les mêmes qui ont été distribués le 6 avril, place Saint-Pierre, aux fidèles venus pour la prière de l'Angélus, ainsi qu'aux fidèles de la paroisse romaine de Saint-Grégoire-le-Grand, que le pape avait visité auparavant. Point de départ de cette semaine sainte, le dimanche des Rameaux, qui a coïncidé avec la 29e journée diocésaine de la jeunesse. À cette occasion, à l'issue de la messe place Saint-Pierre, un groupe de jeunes brésiliens a remis la croix des JMJ aux jeunes polonais qui la porteront en pèlerinage jusqu'à Cracovie. Cette croix, c'est celle que Jean-Paul II a donnée il y a 30 ans au centre San Lorenzo. Ce centre, situé à quelques mètres de la place Saint-Pierre, entièrement consacré aux jeunes du monde entier, a été fondé en 1983 par Jean-Paul II. C'est ici que se sont retrouvés, dimanche après la messe, quelques-uns des 250 délégués des conférences épiscopales de 90 pays et de 45 communautés, associations et mouvements de jeunes catholiques. Ils ont participé, la semaine dernière, près de Rome, à une rencontre internationale organisée par le Conseil pontifical pour les laïcs en vue des JMJ 2016 à Cracovie. Parmi eux, il y avait sœur Nathalie Becker, religieuse Xavière. Elle est la directrice du Service national français pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. À cette occasion, nous avons évoqué avec elle la relation privilégiée nouée par Jean-Paul II avec les jeunes ou encore l'héritage qu'il en reste aujourd'hui.
Moi, ce qui m'habite, c'est le fait qu'il ait fait vraiment confiance aux jeunes, qu'il leur ait proposé de se réunir. C'est lui qui a initié les Journées mondiales de la jeunesse. Mais plus que ça, il a perçu, parce qu'il avait été aumônier de jeunes, ça c'est quand même important, quand il est arrivé comme pape, il avait toute son expérience de ce qu'il avait fait avec les jeunes, notamment à Cracovie. Il a été très proche d'eux. Il a lui-même expérimenté comme jeune le fait de chercher son orientation de vie, de découvrir sa vocation. Et donc, il a vraiment fait confiance aux jeunes et il leur a donné un grand chemin qui est celui de la sainteté, bien sûr, en les appelant à être audacieux et à suivre le Christ. Vraiment, ce qui l'habitait, c'était que les jeunes rencontrent le Christ, et aussi le fait que les jeunes sont un don pour l'Église et qu'ils peuvent aussi, à travers eux, il y a quelque chose de l'avenir qui s'ouvre et qui peut revivifier l'Église.
Et si je vous dis, quand Jean-Paul II parlait aux jeunes?
Alors je dirais, quand Jean-Paul II parlait aux jeunes, c'est vrai qu'il avait un charisme très fort, donc les jeunes les touchaient. Moi, je me souviens, j'étais encore jeune novice, je venais d'entrer dans ma communauté Xavière, j'ai participé au JMJ de 97, et c'est vrai que je me souviens vraiment de ce qui se passait, notamment la veillée de Longchamp. J'ai vraiment perçu à travers Jean-Paul II quelque chose du visage du Christ qui nous rejoignait à travers lui et à travers ses paroles.
Et qu'est-ce que ces messages, ces actes ont changé pour vous ?
moi, ce que je peux dire surtout aujourd'hui par rapport à la mission que j'ai reçue au service de l'évangélisation et de la pastorale des jeunes en France, on peut vraiment dire qu'il y a un avant 1997 et un après. Donc c'est vrai que les JMJ et le fait aussi qu'on ait eu la chance en France de recevoir ces JMJ très tôt, en 1997, ça a eu un vrai impact et ça a lancé toute une dynamique de pastorale des jeunes dans les diocèses, d'une certaine coordination aussi permettent aux différents acteurs de travailler ensemble. Plus personnellement, en fait, j'ai aussi eu la chance de rencontrer Jean-Paul II. Alors là, j'étais encore très jeune, adolescente, quand il est venu en France à Lisieux, je crois que c'était en 81, si je ne me trompe pas. Et son appel « N'ayez pas peur » m'a aussi beaucoup rejointe et m'a invitée à être dans cette confiance, finalement.
Et justement, donc, comment son héritage a-t-il évolué avec les nouvelles générations ?
C'est vrai, je vois les gens de ma génération, on a connu Jean-Paul II, on a été marqués par les JMJ, par ses voyages, par ses paroles. La jeune génération qui arrive aujourd'hui, on se disait ça récemment avec d'autres, quand Jean-Paul II est mort, ils avaient 9-10 ans, maintenant ceux qui arrivent à la génération JMJ, donc c'est pas pareil. Ils en entendent parler, il y a un héritage qui se transmet, mais qui est certainement aussi à faire fructifier pour leur faire découvrir. Parce qu'en fait, peut-être le risque, c'est de réduire Jean-Paul II à une ou deux phrases ou à un aspect. En fait, il a eu un impact et une personnalité très riche. Et sa manière de dynamiser l'Église, je dirais, est très large. Voilà, on ne peut pas le réduire à une seule facette. Et ça, je crois que c'est important pour les jeunes et de leur faire découvrir aussi comment cet homme qui était vraiment un homme de prière a aussi eu... une action à travers son engagement de foi vraiment qui a eu un impact pour le monde et que Jean-Paul II, c'est pas seulement un héritage pour les jeunes catholiques, je crois que c'est aussi un héritage pour le monde entier et les Polonais le sentent bien aussi et qui vont être présents massivement aux canonisations.
Est-ce que vous pensez que le catholicisme militant de Jean-Paul II a décomplexé les catholiques et les a poussés à s'exprimer davantage dans l'espace public ?
Vous savez, chaque pape arrive à une époque donnée. On n'est plus dans le même contexte aujourd'hui que celui des années 80-90, quand Jean-Paul II a déployé aussi tout son charisme pour l'Église. Donc je dirais qu'il a participé. Voilà, c'est sans doute pas le seul. C'est aussi, en tous les cas en France, aussi une histoire de l'Église de France qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les catholiques peut-être osent davantage dire qu'ils sont catholiques, mais aussi parce qu'ils sont beaucoup plus minoritaires. Donc ça change aussi beaucoup les choses. Et moi, je le vois très concrètement chez les jeunes. Ils sont très peu nombreux au milieu des autres, comme jeunes catholiques engagés. Et en même temps, quand ils ont découvert le trésor du Christ, ils ont à cœur de le partager. Et je crois que, c'est vrai, le pape Jean-Paul II les a aussi invités à ouvrir grand les portes de leur cœur, les portes de la foi, à être témoin du Christ. Benoît XVI, à sa manière, a affermi cela, et le pape François aussi aujourd'hui. Il y a comme une continuité entre ces papes, mais en même temps des styles et des charismes très différents. Voilà, et c'est ça toute la richesse de l'Église.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Le pape François a également annoncé que Jean-Paul II sera désormais le saint patron des JMJ, une démarche forte de sens pour les Polonais qui préparent les JMJ de 2016. Allons justement en Pologne, mais pas pour parler des prochaines JMJ, mais de la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Un événement qui touche énormément les Polonais, dont 500 000 devraient faire le voyage à Rome. Les autres vivront ce grand événement dans leur pays. En Pologne, à Varsovie et Cracovie en tête, tout est prêt, ou presque, pour vivre la canonisation de Jean-Paul II. Les habitants des villes et ceux des campagnes se préparent activement, avec émotion et avec foi, à célébrer l'événement. Dans plusieurs villes, des horloges spéciales ont même été installées et décomptent les jours et les heures. À Varsovie, François Gault.
Dans toute la Pologne, sur les lieux des cérémonies, et ils sont nombreux, les Polonais construisent des autels pour y célébrer des messes et des gradins pour les fidèles. Ailleurs, ils installent des centaines de grands écrans dans tout le pays pour retransmettre l'intégralité des cérémonies de Rome. Ailleurs encore, ils collent des affiches sur les murs avec les portraits des deux papes canonisés et l'on porte témoignage. Monseigneur Stanislav Dziwisz, archevêque de Cracovie et ancien secrétaire particulier de Jean-Paul II, rappelle « J'ai toujours su que j'étais au service d'un saint homme. » Et Lech Walesa affirme « Jean-Paul II est un saint de notre époque. » Depuis le début avril, ici et presque partout dans les grandes villes, on a organisé conférences, symposiums, expositions, concerts, débats. On a diffusé aussi des films sur Jean-Paul II. Tout cela pour analyser et approfondir son enseignement. Le 27 avril sera un très grand jour pour tous les Polonais. Santo subito, saint tout de suite, criait-il le jour des funérailles de Jean-Paul II en avril 2005. Pour de nombreux Polonais, Jean-Paul II fut le témoin de toutes leurs espérances et aujourd'hui, 9 ans après, ils affirment Jean-Paul II est toujours aussi présent dans nos cœurs. François Gault pour Radio Vatican.
François Gault. Et à partir d'aujourd'hui, nous reviendrons chaque jour sur la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII, à suivre également sur notre site internet et sur Facebook. Le Brésil se prépare à accueillir la planète foot dans moins de 2 mois avec la Coupe du Monde qui se déroulera du 12 juin au 13 juillet. Cet événement suscite néanmoins bon nombre de questions, sinon de critiques. En mars dernier, les évêques du pays avaient exprimé leur solidarité avec des manifestants qui déploraient qu'aucune mesure de lutte contre la pauvreté n'ait été prise. Le sport est nécessaire, il ne devrait jamais être négligé, affirment les évêques, à condition que le désir de succès et d'argent ne prennent pas le dessus. Les évêques ont également choisi de consacrer leur campagne de carême à un phénomène qui risque de prendre de l'ampleur avec l'afflux des touristes, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle, un fléau déjà très répandu au Brésil. Monseigneur Eugène Rixin, évêque de Goiás, au Brésil, est d'origine belge. Il nous parle de cette Coupe du Monde et des craintes qu'elle inspire.
La question de la protection des jeunes contre le tourisme sexuel, le propre gouvernement fait des pamphlets dans les aéroports, avertit la population et c'est surtout au niveau de la conscientisation.
Donc l'État agit de son côté. J'imagine que l'Église également essaie de jouer un grand rôle dans la conscientisation des personnes.
Non, l'Église bien sûr a un rôle très grand parce que l'Église catholique c'est un des organismes qui a le plus de crédibilité au Brésil. Et quand l'Église parle, généralement, les gens croient ce qu'elle dit. Donc l'Église, à travers ses moyens de communication, nous avons plusieurs télévisions, des radios, par les maisons, on peut bien sûr conscientiser les gens et les aider à prendre conscience de la réalité.
L'Église a donc un rôle de conscientisation. Elle a aussi un rôle de critique. On l'a bien vu avec cette lettre que les évêques brésiliens ont adressée aux autorités.
Où est-ce que l'Église critique, c'est le modèle de société que le gouvernement est en train d'implanter au Brésil, un gouvernement qui accroît les inégalités, il fait beaucoup d'œuvres de prestige, et là il n'y a pas que les stades, il y a les grands barrages aussi, qui détruisent pas mal de terres, qui détruisent des populations entières, principalement les populations indiennes, qui se voient tout à coup loin de leur terre d'origine. Et on sait que pour les Indiens, la terre où sont enterrés les morts a une extrêmement grande valeur, mais paraît-il, le gouvernement ne prend pas fort conscience de cela.
L'Église catholique au Brésil s'est dit solidaire des manifestants. Doit-elle également agir de concert avec eux dans la rue ?
Je pense que oui. Hein. L'Église, je rappelle toujours la phrase de Jésus, il ne sert à rien de dire « Seigneur, Seigneur » si on ne s'engage pas non plus à faire sa volonté. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le règne de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est justement construire le règne de Dieu. Et le règne de Dieu consiste en quoi ? C'est que tous puissent avoir une vie la plus digne possible, hein, et une vie en abondance, comme le demande Jésus. Donc cet engagement vis-à-vis des pauvres, cet engagement pour conscientiser les gens, pour qu'il n'y ait plus d'égalité entre les gens, je pense que c'est extrêmement important.
Dans la perspective donc de ce mondial, l'Église catholique brésilienne a voulu centrer sa campagne de carême sur la traite des êtres humains.
Alors il y a le trafic humain, on critique très fort le travail esclave qui continue d'exister, surtout dans les grandes fermes où les gens sont réellement exploités, mais aussi le vol d'organes humains. Hein, par exemple, on connaît des cas de gens qui ont été tués pour pouvoir leur enlever un rein ou un foie qui sont après vendus pour faire des opérations pour des gens qui ont les moyens financiers. C'est assez cruel, mais malheureusement, ça existe. Il semble, moi je n'ai pas connu des cas concrets, mais il semble aussi qu'il y a des gens qui adoptent des enfants ici en Europe afin d'en profiter pour faire le trafic d'organes humains. Je voudrais que les gens prennent conscience du problème de trafic de personnes, que personne ne peut être utilisé comme un objet, mais que la personne doit être respectée dans sa dignité, que chaque être humain a ses droits. Hein. Tous nous avons le souffle divin en nous et l'être humain ne peut jamais être utilisé comme un objet à son profit, mais être respecté profondément dans sa dignité, comme nous le rappellent les droits humains et comme nous le rappellent toutes les pages de la Bible, principalement l'Évangile.
Monseigneur Eugène Rixin, évêque de Goiás au Brésil, il était interrogé par Manuela Affigi. Le Comité des Nations Unies contre la torture va auditionner une délégation du Saint-Siège les 5 et 6 mai prochains à Genève. Ce comité de l'ONU a pour but de prévenir et lutter contre la torture et les traitements inhumains et cruels. Le Saint-Siège présentera un rapport sur les mesures appliquées en rapport avec la Convention contre la torture qu'il a signée en 2002. Il répondra ensuite aux questions des membres du Comité des Nations Unies qui pourraient notamment aborder la question de la protection des enfants face aux abus sexuels commis par des membres du clergé. Le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, répondant à des questions de journalistes, a confirmé la présence du rapport du Saint-Siège, mais a tenu à préciser que le Saint-Siège avait signé la convention en 2002 exclusivement au nom et pour le compte de l'État de la Cité du Vatican. La ville syrienne de Maloula est tombée aux mains de l'armée de Bachar al-Assad. Elle était contrôlée depuis plusieurs mois par les djihadistes du front al-Nosra. Selon l'agence Sana, l'agence officielle syrienne, le patriarche grec Melkite Grégoire III Laham s'y rendra bientôt. Sur les ondes de la télévision Al-Mayadin, le patriarche a souligné l'ampleur des dommages, notamment causés au monastère de Sainte-Thècle. « Nos ancêtres ont construit ces couvents et nous restaurerons leur beauté, leur splendeur avec les prières et l'affection des fidèles », a-t-il notamment déclaré. Maloula, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite plusieurs sanctuaires d'importance mondiale, des couvents et des églises historiques ainsi que des refuges troglodytiques des premiers siècles du christianisme. On y parle encore l'araméen, la langue du Christ. Rendons-nous maintenant dans un autre pays dévasté par l'instabilité et l'insécurité, la République centrafricaine. Là, les exactions des milices anti-Balakais ont succédé à celles de la Seleka. Victimes de ces violences qui ne cessent de déchirer le pays depuis des mois, les musulmans accusés par les anti-Balakais d'avoir soutenu la rébellion de la Seleka. Ces musulmans vivent maintenant retranchés, protégés dans le meilleur des cas, par les soldats africains ou français. Mais ceux de Bossangoa, dans le nord du pays, ont décidé en fin de semaine dernière de fuir vers le Tchad. Marie Duhamel a joint sur place l'abbé Aurélien Arthur Ngaya, le chancelier du diocèse de Bossangoa.
Dernièrement, j'ai travaillé avec une équipe de Caritas qui s'occupe de la distribution de vivres. Donc on a eu l'occasion de croiser certains de ces musulmans-là. Beaucoup regrettent le fait qu'il y ait cette situation, parce que beaucoup sont nés ici. Bon, ceux de Bossangoa, il y en a qui sont nés à Bossangoa, qui ne connaissent pratiquement pas Tchad. Alors, ils ne savent pas dans quelle situation ils vont se retrouver là-bas. Beaucoup regrettent de partir au Tchad.
Est-ce qu'ils comprennent ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils comprennent que d'autres Centrafricains s'en prennent à eux?
Oui, mais c'est une situation qui s'est étalée sur le temps. Tout au départ, ils n'avaient pratiquement pas de problème lorsque la rébellion Seleka s'est emparée du pays. Seulement quelques musulmans, peut-être plus véreux que les autres, s'est joint au groupe de Seleka. Et c'est ceux-là qui ont rendu la vie difficile aux autochtones. Après, les milices, habituellement, je n'aime pas dire les milices chrétiennes, hein, parce que tous ne sont pas chrétiens. Donc les milices, je dis non musulmanes, se sont pris aux musulmans. Donc les autres comprennent que ils ne font que cueillir le résultat de ce que se consommaient les autres.
Est-ce que l'Église, vous de votre côté, évidemment catholique, mais aussi protestant, vous regrettez cette situation?
Ah oui, parce que jusqu'au dernier moment, il y avait quand même une cohabitation, une certaine entente entre les musulmans qui sont restés et puis, je dirais, les autochtones. Ils sont cantonnés au niveau d'une école. Mais ils se ravitaillent grâce aux produits livrés que leur vendent les autochtones. Et puis, certains musulmans qui ont encore quelques articles, le vendent aussi facilement aux autochtones. Donc il y avait quand même une certaine entente, c'était quand même une lueur d'espoir. Comme la décision est arrivée, on ne peut pas faire autrement, mais je crois qu'on le regrette, effectivement.
Voilà l'abbé Aurélien Arthur Ngaya, le chancelier du diocèse de Bossangoin, joint par Marie Duhamel. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.